Micro. C'est bien. Je pense que nous allons donner la parole maintenant à Evelyne Grange-Ségéral et nous ferons plutôt une discussion après l'intervention d'Evelyne. Evelyne Grange, merci d'être là. Tu es lyonnaise et avec d'autres collègues, vous avez créé des dispositifs de thérapie familiale bien spécifiques où vous œuvrez à plusieurs thérapeutes dans le dispositif et vous avez axé, me semble-t-il, votre travail sur les traces archaïques et cela a fait l'objet de recherches et de publications. La clinique que tu vas évoquer est, me semble-t-il, issue du travail que vous avez initié à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. C'est bien ça ? Donc, une clinique à l'écoute des pathologies graves. Alors, tu es psychologue, thérapeute familial et ex-maître de conférence à l'Université de Lyon 2. Tu vas nous faire réfléchir sur les conditions de la mise en récit en thérapie familiale, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. À toi.
Merci. Voilà, vous m'entendez ?
Et maintenant ? Voilà, moi aussi, je me suis tournée du côté de Ricoeur, le spécialiste de la question du récit, c'est ce qui nous rassemble aussi. Mais j'ai retenu une ou deux choses dans son œuvre qui est quand même très importante. Au niveau le plus large et le plus englobant, il définit le récit comme concerné par tout acte de parole, dans le fond, ou d'écriture, qui va opérer une forme de configuration temporelle. Et selon lui, il peut contenir à la fois le roman, la question du récit, le théâtre, la poésie, le film, mais aussi l'histoire et les conversations. De ce fait, on ne peut pas opposer récit et fiction, car cette dernière, la fiction, est une tentative de configurer ou reconfigurer ce qui a été vécu dans le temps de l'expérience vive. Le passé familial est par définition non observable directement. Donc il suscite l'imaginaire à travers les récits ou les bribes de récits qui nous sont livrés à la faveur de la transmission entre les générations. Ce temps de la transmission est celui des mythes familiaux, mythes évidemment, car comment on pourrait définir ce qu'on pourrait affirmer comme la réalité ? La réalité d'un événement survenu dans l'histoire bénéficie toujours d'une reprise mythique. Il s'agit donc bien de fiction, ce que je voudrais insister sur cette question du récit et de la fiction. Il s'agit donc bien d'une fiction qui narre ce qui aurait pu avoir lieu, improbable passé. Là, je songe par exemple à une thérapie familiale où, avec une famille adoptive où ils étaient souffrants, ils avaient adopté 3 enfants d'origine différente. Et un jour, le père a produit un rêve. Et le rêve, c'était qu'il a vu dans son rêve l'ours qu'un de ses enfants, le deuxième qui était venu dans la famille, que l'ours avait pour s'endormir. Évidemment, cet enfant, il avait été élevé dans un hôpital, il était assez fragile, il n'a sûrement jamais eu d'ours. Mais ce père l'a décrit avec force couleur, et cet enfant, il a reçu cet ours, il l'a réutilisé après. C'est pour vous montrer que la reconstruction du passé, elle est très liée à la question de la fiction, et particulièrement en thérapie familiale. Ricoeur, en fait, fait de la fiction un détecteur de possibles enfouis dans le passé effectif. Ce dernier point nous conduit à considérer aussi, ce qui est important pour Ricoeur, l'identité narrative. Seule voie qui puisse inclure le changement et la possibilité d'opérer des mutations dans la cohésion de la vie. C'est un peu la démarche de tout analysant, qui effectue une suite d'allers et retours, de corrections, de rectifications, afin de substituer à des bribes d'histoires souvent inintelligibles et insupportables, une histoire cohérente et acceptable dans laquelle il pourrait reconnaître son identité, l'analysant. Un sujet se reconnaît dans l'histoire qu'il se raconte à lui-même et sur lui-même. Bon, le récit en thérapie familiale maintenant. Alors j'ai mis en petit sous-titre « Ce qu'on ne sait pas, on peut l'imaginer et le construire ». En thérapie familiale, les parties de la vie de chacun apparaissent nouées, enchevêtrées dans les histoires de la vie de ses autres familiaux et en particulier des ascendants. En effet, nous tous ici sommes tributaires et héritiers de ce que la génération précédente aura ou non entrepris d'un travail d'historien afin de le mettre à disposition de ses descendants. Ce travail d'historien est sous la dépendance des capacités d'élaboration de chacun, de capacité de se confronter aux énigmes, de la capacité de se confronter à la souffrance de l'élaboration et l'aptitude à la transformation. Il est dépendant aussi de la nature des liens, de la présence de traumas, en bref, de ce que contient l'héritage. Avec les familles les plus souffrantes, ça a déjà été dit, la narration est souvent au second plan, sinon dans des versions rigidifiées et causalistes directes. Nous sommes une famille de dépressifs, il y a eu un fou à chaque génération, on ne peut pas s'entendre. Oui, voilà, on a ce sont des formes de contenants négatifs qu'on peut juger, mais qui sont déjà une première manière de dire quelque chose. Mais tous semblent atteints d'une transmission qui serait calquée sur le mode de la transmission de tares génétiques inévitables. Par ailleurs, la chaîne associative qui est produite par la famille, chaîne associative que Françoise Aubertel et Francine Fustier ont bien décrite, cette chaîne associative n'est pas constituée que de dires et de fantasmes. Elle est aussi faite d'éléments comportementaux, sensoriels, corporels, gestuels et rythmiques, d'odeurs aussi, hein. Disons que toute la sensorialité est en éveil. L'histoire qui n'a pas été mise en récit acceptable est conservée telle une relique dans les habitus individuels ou groupaux, dans les traces psychiques et somatiques et les mouvements commémoratifs qu'on observe en thérapie familiale sans véritable mémoire. Ce constat m'a amené à penser la transmission qui ne peut se composer en récit en réintégrant les aspects non-verbaux de la chaîne associative sous le terme de, que j'ai appelé, réserve de mémoire affective. Sorte de toile de fond de la mémoire représentative qui, elle, se déroule dans l'histoire et les mythes. Donc on a une mémoire affective constituée de perceptions diverses, et puis on a une mémoire représentative qui peut, elle, se mettre en récit. Qui dit mémoire affective, dit mémoire des impacts, heureux ou malheureux, perceptions plus ou moins diffuses, qui vont être diffusées dans l'espace thérapeutique avec un caractère énigmatique d'abord et nécessitant une construction représentative fictionnelle de la part des thérapeutes. Ces constructions doivent trouver des appuis théoriques et des dispositifs de réétayage importants car il s'agit de décrypter des comportements et des sensations qui nous paraissent d'abord innommables, encombrantes, malvenues et source d'envie d'agir ou de sidération. Ces dispositifs, donc à Lyon, comme Marie-Vonne l'a évoqué, sont le temps de post-séance, de l'après-séance. Les intervisions, c'est-à-dire de temps où tous les autres thérapeutes, y compris ceux extérieurs au dispositif, viennent apporter leur construction psychique, viennent soutenir, et les écrits également, qui sont des modes de secondarisation de ce qui a été vécu. Hein. Donc vous voyez qu'il y a des temps de transformation successifs, que je reprendrai. Il s'agit dans le fond de repasser par les étapes qui vont de la transmission brute, réception brute, à la symbolisation, de construire un début de roman de la famille. Que veut-il dire ? Que veut-il nous faire éprouver ? Que veut-il nous faire sentir de leurs liens ? Rien ne peut être laissé tomber, car rien ne permet un tri dans les informations multisensorielles transmises dans les débuts de thérapie à la manière d'un puzzle éclaté et où il manquera peut-être des pièces. Je repense à des séquences bien décrites dans les livres de Nancy Houston ici présentes, lorsque par exemple dans l'Inde de Faille, le jeune Randall va déchiqueter et décapiter son ours, pris dans l'avalanche de conflits incompréhensibles liés à l'histoire de ses parents et à la filiation trouble de sa grand-mère. Ou bien au jeune Sol, qui assiste à une dispute de ses deux arrière-grand-mères très âgées, s'arrachant des mains une poupée. Le lecteur, lui, n'est pas sidéré, car il bénéficie du récit des chaînons manquants grâce au roman. Et il identifie la scène immédiatement comme porteuse de sens. Pareillement, et sans connaître l'histoire, les thérapeutes doivent investir, conserver en mémoire, dans l'espoir de comprendre plus tard ce qui leur est transmis de manière énigmatique, fragmentée et apparemment insensée. Je repense aussi à une famille dont je vais vous parler plus longuement ensuite. Famille dont le transfert nous mettait thérapeutes, nous étions 4 thérapeutes, c'est rare que le dispositif soit aussi chargé pour des questions de coûts aussi, mais à l'époque on avait de l'argent, je ne sais pas, parce que c'est assez vieux, je l'ai beaucoup repris, c'est un filon. Alors, cette famille, c'était des gens très âgés qui avaient des enfants déjà très adultes et qui n'avaient pas pu construire leur vie. Il y avait 3 enfants, donc j'ai modifié les sexes et tout pour éviter qu'ils se reconnaissent parce qu'ils lisaient volontiers des ouvrages sur ces questions. Et donc je ne sais plus, mais en tout cas, bon, dans des âges proches de 35, 40, 45 ans, un est officiellement schizophrène, ou une, je l'ai dû la féminiser, et puis le deuxième aussi est très mal, mais il conserve quand même une vie sociale où il travaille, mais aucun n'a construit sa vie bien cagée, aucun n'a pu avoir d'enfant. Donc il nous mettait dans la terreur, sous emprise, et il provoquait des troubles corporels et sensitifs tournant chez les thérapeutes. Affectés dans leur corps, c'est-à-dire que c'était des vertiges, des nausées, certains thérapeutes pensaient à quitter le dispositif et s'absentaient tour à tour pour des motifs divers, parfois valables, parfois contestables, indiquant la violence de ce qui était transmis, asséné par les bribes de récits. Les comportements et aussi les rêves qui étaient aussi... Parce qu'il y avait des rêves, ce qui est quand même une grande chance, mais qui étaient assez épouvantables. Par les effets du transfert, les thérapeutes héritent de ce qui n'a pas trouvé de représentation, ce qui a fait souffrance et qui est reprojeté sur le dispositif offert. Les contenus sont donnés à percevoir, à sentir, à éprouver avec la famille présente, à co-éprouver. Comme dans tout dispositif thérapeutique, nous sommes pris pour un autre, des ombres que nous sommes amenés à incarner à notre insu. Ligotés que nous sommes parfois dans un procès interminable, entretenu avec l'environnement, perçu comme injuste ou indifférent à l'égard de la famille. Car bien que fauteurs de troubles, les ancêtres peuvent bénéficier d'une idéalisation défensive de la part des familles. Idéalisation qui a pour fonction de suturer tout accès ou remise en cause des origines et des liens à l'origine. On voit ça aussi dans les institutions. Par rapport au fondateur. Ainsi se préserve une image innocentée des ascendants qui bloque l'élaboration des avatars de la transmission d'un côté et accroît les récriminations à l'égard des thérapeutes dans le réel de leurs interventions de l'autre côté. Le père de famille de cette famille-là arrive un jour en séance en nommant les thérapeutes des fonctions dévolues à celles d'un tribunal, avocat, greffier, celui qui écrit parce qu'on a une prise de notes, procureur, etc. Cette mise en scène pourrait avoir des effets psychodramatiques si nous n'étions pas dans une ambiance vraiment et réellement accusatrice. Il n'y a pas d'espace de jeu. L'accusation est celle de vouloir les juger, que nous voudrions les juger. Certes, un procès devrait avoir lieu, mais lequel ? Qui a fauté en dehors des thérapeutes perçus comme inadéquats ? Bien évidemment, il est impossible de poser la question qui, en fait, nous le découvrirons bien plus tard, constitue un secret de famille que les enfants finiront par construire, non pas par apprendre, à partir d'observations mises bout à bout et sous forme de fiction. Ce qui pourrait permettre une mise en récit est bloqué par le transport très actualisé de la défiance, la méfiance et les craintes d'agression qui pourraient surgir de la part des thérapeutes. Passage par l'acte et souvenir sont deux manières de faire revenir le passé dans le présent. Mais ces deux manières n'ont pas la même valence du point de vue de la représentation et de la possibilité de verbaliser et de mettre en récit. Le placement des thérapeutes en agresseurs, qui sont des juges, ne leur permet pas d'occuper une place bienveillante, malgré l'accueil qui est réservé à cette mise en scène ce jour-là. Cependant, tout ce qui fait signe, ce qui va faire signe dans cette thérapie, va pénétrer progressivement au fur et à mesure de la thérapie dans les pensées des enfants qui concluront au bout de la deuxième année la chose suivante. Ce n'est pas que notre père ne nous aimait pas dans son refus de nous prendre dans ses bras et de montrer de la tendresse. C'était leur conviction qu'il n'était ni aimé ni aimable. Un des enfants dit « c'est qu'il a dû subir quelque chose ». En effet, à partir d'éléments disséminés dans les séances, les thérapeutes ont relié pour eux-mêmes, parce que Dieu merci, ils travaillent aussi, le fait que le père faisait des siestes avec son oncle lorsqu'il était adolescent. C'est une transmission qui a été effectuée sans valence, c'est-à-dire qu'elle est à peine perceptible. C'est dit, mais c'est vraiment parce qu'on travaille sur les séances dans l'après-coup qu'on peut l'entendre. C'est dit de manière à ne pas être vraiment entendu. Et qu'il a souffert d'un infiltrat pulmonaire à l'âge de 20 ans. Alors cet infiltrat, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais ça existe l'infiltrat. Mais cette question d'infiltration, quand on l'a liée aussi à la question des siestes avec l'oncle, nous a évoqué d'autres choses. Par ailleurs, ces enfants se disent toujours étonnés de sa pudique bronzerie, qui le faisait, même quand ils étaient petits, refuser d'être vu en pyjama ou en maillot de bain. Il mettait sa main constamment de façon... Donc c'est cet ensemble, ce petit puzzle, qui permet de reconstruire l'idée d'un traumatisme chez le père. De manière préconsciente, les enfants acquièrent progressivement l'idée que quelque chose n'a pas été transmis. Se crée et s'installe, à ce moment, la représentation d'une absence de représentation, ce qui est très important. On se représente qu'il n'y a pas de représentation. Une case de négatif est disponible. Alors, pour y loger psychiquement, dans un réseau signifiant, c'est-à-dire qu'ils vont loger dans cette case de négativité, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose. Ils vont loger le manque catastrophique d'amour ressenti, c'est-à-dire le fait qu'ils n'étaient pas aimés, et un possible trauma de leur père, dont ils n'ont que la préscience. L'histoire fait ainsi un virage important. Convaincus de n'être pas aimables jusque-là, mais pour des raisons qui étaient les leurs, ils vont réinvestir des activités et des relations de leur âge, autrefois vécues dans un climat toujours persécutif. Le poids des signes de non-amour, de rejet s'allège, se retourne, mais il est déjà bien tard pour que les enfants puissent réorienter autrement leur vie sociale. Alors, voyons plus précisément les conditions de la mise en récit. De ce qui précède, il apparaît que la mise en récit nécessite que certaines données concernant la préhistoire de chacun soient disponibles. Donc, une génération ait, elle aussi, produit un suffisant travail de transformation pour rendre transmissible, autrement que dans la violence, ou dans la, on va dire, dans l'énergétique, hein, dans l'effraction de la génération qui suit, autrement que de cette manière-là, pour que les contenus de cette préhistoire soient transmis. Les souffrances extrêmes, les hontes et les effondrements sont les plus difficiles à transformer et à transmettre, sinon par retournement sur la génération qui suit, souvent dans un contexte d'excitation effractante peu représentée. Ce brouillage dans la temporalité a pour effet qu'une génération ne sait pas ce qui lui arrive, se retrouve héritière de bruit, de fureur, de douleur, à incorporer de force, tout en se construisant autour et avec ses noyaux traumatiques inassimilables. Certains, à l'image des huîtres perlières, parviennent avec leur génie et leurs composantes personnelles à transformer un ou plusieurs cailloux gênants en perles de valeur. Mais ce n'est évidemment pas donné à tout le monde, je pense que vous en êtes. En thérapie, avec des familles concernées par la psychose ou les difficultés somatopsychiques importantes, et je vais tenter de le montrer de manière un peu plus théorique, il est important de centrer son attention justement sur ce qui va se transmettre de manière non verbale, ce bruit et ces fureurs, ce qui est donné à voir, à sentir, à éprouver, bref, sur des contenus reçus dans le contre-transfert et les effets sur le groupe de thérapeutes qui s'est offert au transfert. Ces transmissions non verbales, véritables réserves de mémoire, constituent une mise en récit potentielle, réalisable à la condition que sur une autre scène, dans le dispositif thérapeutique, se travaille et se transforme dans le psychisme des thérapeutes au prix de leur propre inconfort, ce qui a provoqué des distorsions de l'histoire, ce qui a provoqué des ressentis non localisables, non mis au passé, toujours présents, toujours actifs. Quand je parle d'inconfort des thérapeutes, je fais référence au fait que les ressentis des thérapeutes seront d'abord travaillés dans leur intertransfert et attribués parfois avec un indice de réalité important aux collègues ici présents. Ce travail ouvre la porte à des mises en conflit, des désaccords qui font craindre un déchaînement de violence si les affects transmis par les familles ont un niveau quantitatif élevé, quand je parle de quantité énergétique non représentée. Dans ces situations, le lien co-thérapique, le lien des thérapeutes entre eux, peut se voir préservé de tout nuage et perdre, faute de sécurité suffisante, des possibilités de mise en représentation. Mais ceci est la même chose que dans les dispositifs individuels, où on est toujours l'analysé de son ou de ses analystes. Regardons maintenant la mise en récit, comment elle dépend des inscriptions dans l'originaire. Il en a été question très rapidement. Je vais le reprendre. L'originaire, alors je vais prendre la question de l'originaire dans les constructions modernes, celle de construction théorique moderne de Pierre Aoulanier, de Toby Nathan, de Didier Anzieux, les signifiants formels, les pictogrammes, parce que l'originaire dans la pensée de Freud et de ses successeurs traitait plutôt de la question des fantasmes originaires et de l'originaire, le mythe de la horde primitive, enfin voilà. Alors que là, on va se centrer plutôt sur la question de comment finalement, de la sensation corporelle, on parvient à la représentation. L'originaire se construit dans la rencontre avec l'objet primaire. C'est pareil, il faut s'entendre sur la question de l'objet primaire. Ce n'est pas la mère. La mère, c'est un raccourci théorique qu'on trouve dans tous les livres. C'est bien que ce soit drôle, c'est vrai. L'objet primaire, c'est vrai, moi aussi ça me fait rire. L'objet primaire, on peut le caractériser, non pas comme la mère seule, mais comme l'ensemble de la dialectique individu-environnement engagé autour de la venue de l'enfant, des enfants et de leur premier développement. Voilà, comme ça, on est sûr de rien perdre. Et le traumatique, hein, de rien oublier. Le traumatique est ainsi toujours en rapport avec l'incapacité à construire une représentation du réel et du corps suffisamment assimilable. Donc l'originaire dans sa conception moderne, il est décrit en termes de pictogramme chez Pierre Aoulanier, signifiant formel chez Anzieux, contenant formel chez Toby Nathan et d'autres. Hein. Mais cela dit, tous les auteurs s'accordent sur sa structure matricielle de la représentation. Ça fait peur, hein? Ce qui s'écrit dans la psyché, voilà comment Pierre Aoulanier explique les psychogrammes. C'est dur de, entre les téléphones, les bruits de. On se croirait en thérapie familiale. Oui, oui, c'est des objets bruts. Ce qui s'écrit dans la psyché sera le reflet de la façon dont le sujet est affecté au cours de la rencontre de son corps psyché avec l'espace environnemental. Comment les premières traces, comment cela s'inscrit psychiquement, alors on va dire dans les neurones, hein, pour faire vite, mais c'est pas que ça, et corporellement, comment le corps engramme les traces. Les inscriptions dans l'originaire concernent, selon elle, tout ce qui est attraction ou au contraire rejet, attraction et rejet, entre une zone de besoin, par exemple la zone orale, et son objet complémentaire, le sein par exemple. Hein. Ça, c'est vraiment des raccourcis. Hein. Donc tout ce qui est attraction, ce sont ces mouvements d'attraction ou de rejet, ce sont les premières formes d'inscription dans le psychisme qui vont constituer l'originaire. Toute expérience de plaisir et de satisfaction s'accompagnera d'un désir d'avalement, de prise en soi, de complétude et de continuité. C'est très important parce que, effectivement, là, ces pictogrammes qui s'inscrivent créent de la continuité, créent de l'envie d'absorber l'environnement, l'envie d'être en contact. Les pictogrammes en rapport avec des expériences négatives, toute expérience de souffrance va s'illustrer par un désir de rejet, de destruction des objets d'excitation, c'est-à-dire que de détruire l'objet qui, au lieu de faire une expérience de satisfaction, fait faire une expérience de déprivation ou d'incompréhension, tout simplement. D'automutilation, c'est-à-dire que même la zone peut être attaquée, on va le retrouver dans les pathologies addictives, par exemple, et de destruction de l'activité de représentation elle-même. Vous voyez que les enjeux sont importants du point de vue du développement de l'individu. Les pictogrammes en rapport avec les expériences négatives, puisqu'ils détruisent l'activité de représentation, auront pour destin de rester captifs de la sensation en produisant agir et somatisation. Hein? On peut dire que le circuit sensation, perception, sensation, éprouvée et représentation et verbalisation est stoppé. Donc on aura des agir et des somatisations. Ces sensations peu ou pas représentées seront susceptibles de produire sous contrainte de répétition des liaisons plaisir-douleur, un attachement aux expériences négatives que l'on peut retrouver de manière compulsive dans le masochisme par exemple, hein, qui sont des modes de liaison plaisir-douleur. Ce modèle originaire de confusion entre plaisir et douleur est celui que l'on retrouve dans les pathologies addictives à un produit ou à un objet destructeur. Ce processus, dans le fond, est celui d'une récupération de l'expérience de souffrance. C'est aussi une manière de la récupérer. Elle ne devient intégrable dans le registre libidinal que sous la forme d'une effraction liée qui se répétera dans des schèmes psychiques et comportementaux. Donc c'est l'effraction qui est conservée et qui va être transmise aux descendants. L'originaire en famille, il va donner des formes d'être ensemble ritualisées sous contrainte et constituantes des liens. Ainsi, si nous reprenons l'exemple de la famille, toujours la même, exposée plus haut, leur mode d'être ensemble qu'ils nous exposent dès les premières rencontres est constitué d'explosions verbales, gestuelles, un vécu d'être sous pression constamment qui pourrait conduire à en venir aux mains. Verbalement, ce sont des reproches, des culpabilisations réciproques. Ils sont blessés immédiatement par l'incompréhension et les propos des autres et ne disent avoir en commun que leurs dépressions respectives intervenant à différentes époques. Voilà leur héritage des dépressions. Le père a perdu le sommeil lors de la mort de son propre père, mais tous les autres membres ont des troubles du sommeil et prennent beaucoup de médicaments. La petite enfance a été émaillée de nombreuses maladies, asthme, eczéma, si bien qu'on aurait déconseillé aux parents d'avoir d'autres enfants. Les rêves apportés concernent des expériences de danger par noyade, d'arrêt de justesse au bord d'une digue, de disputes avec tout le monde. Leur histoire est une version rigidifiée et idéologique sur laquelle ils vont être d'accord pendant tout un temps. C'est la grand-mère maternelle qui serait coupable de tout, car elle a transmis sa folie, sa manière de tout critiquer et sa violence à tout le monde. Encore une fois, c'est idéologique, mais c'est un contenant. L'idéologie est un contenant, c'est un contenant négatif, et faute de mieux, ça permet aussi de faire une... Ça sert à une mise en récit. Après, on peut discuter les récits, mais tous les pays ont des phases idéologiques, la politique aussi, donc je ne sais pas pourquoi les familles n'en auraient pas. Elle aurait détruit les nerfs. Hein, on voit là aussi les images corporelles. Alors évidemment, j'ai les nerfs. C'est à la fois métaphorique, mais en même temps, ce qu'ils amènent, c'est vraiment le nerf, enfin, l'excitabilité qui a été détruite chez la mère. Hein. On voit que ce qui est, où les fractions apportées. Elle aurait détruit les nerfs de sa propre fille. Ce qu'ils réclament, c'est qu'on leur donne les moyens de se défendre face à cette grand-mère, qu'on ne peut ni recevoir, ni laisser seule, et notamment les jours de fête, par exemple, jours de fête qui finiront toujours, systématiquement, dans la colère et le ressentiment. Cette thérapie de famille sur laquelle j'ai déjà écrit beaucoup, beaucoup, hein, je dois dire qu'ils m'ont vraiment rendu service, je ne peux pas l'exposer en entier. Oh, je leur dois beaucoup. Ils ont été durs, mais par la suite, ça a été très intéressant. Je souhaite seulement servir mon propos aujourd'hui sur la nécessité que, à la fois dans les thérapies, des affects forts soient présents, et transmis parfois de manière effractante sur les thérapeutes. C'est une manière finalement d'érotiser la souffrance qu'on a dans ces dispositifs, parce qu'on ne peut pas se lever, ni partir, ni frapper les gens qui viennent nous voir. Hein. Donc il faut bien transformer. Et voilà. Donc il faut se dire que ça a une raison et que ça a une nécessité, parce qu'effectivement là peuvent se transformer ces fameux pictogrammes de rejet. Les agirs vont être nombreux. Par exemple, ils vont développer un rituel d'absence aux séances, qui est calqué sur les absences aux fêtes familiales. J'avais d'ailleurs produit dans La Fête de Famille, le livre La Fête de Famille, un article sur ça. Alors, ces absences, c'est des engueulades affreux, parce qu'ils attendent, s'il y a une fête, je ne sais pas, le baptême du dernier petit neveu, je ne sais pas quoi, il y en a un qui n'est pas là, ils ne peuvent pas rentrer dans l'église, ils s'engueulent, bon. Et alors, ça va être la même chose dans la séance. On va passer une demi-heure à attendre celui ou celle qui n'a rien fait dire alors qu'il n'est pas là. S'il arrive, ah mon Dieu, c'est pire que tout, la deuxième partie de la séance, après qu'il se soit vraiment, vraiment attrapé, écharpé, va concerner le fait que nous ne nous les aidons pas beaucoup. Les thérapeutes situés près de la mère souffrent de douleurs physiques, de malaise, vertiges, et arrive en séance pour ne pas être à la place maudite. Alors là, j'ai jamais eu d'éco-thérapeute en retard. Ils avaient un quart d'heure d'avance. Alors un jour, je me suis demandé ce qu'ils avaient. Et en fait, c'est pour avoir la place qui ne sera pas celle de la mère, parce qu'ils se sont rendus compte que celui qui était plus proche d'elle, il est mal. Il est mal, il a la tête qui tourne, il a envie de vomir. Je donne tout ça. Bon, c'est anecdotique, mais c'est pour vous montrer comment le corps est saisi. Par l'histoire ou le manque d'histoire. Des images de vampires nous viennent en association, comme si une génération ne pouvait que vider l'autre de ses forces vives. Tous sont très souffrants. Une des filles est identifiée comme schizophrène, je vous l'ai dit, et les deux autres enfants sont en grande difficulté.
Mais c'est toujours la même famille.
Mais je t'ai dit que je les change les sexes à chaque fois. Parce que le père, il est arrivé parfois avec... Ah ben là, c'est toujours la même famille.
Mais
bien sûr.
T'as besoin de repères.
Mais c'est bien normal.
La différence de sexe, elle perd bien.
Oui, je ne m'intéresse pas aujourd'hui à cela. Je vais savoir.
On n'est pas dans la différenciation. On est déjà dans la différenciation dedans, dehors, parce que c'est une famille fusionnelle, dans la différenciation des êtres et des espaces. On n'est pas dans ces différenciations sexuelles, on en est loin. On est déjà en train de discuter, c'est sympa. La transmission est pensée par eux comme un empiètement et contagion. Leur belle-sœur qui est venue chez eux a attrapé la migraine. Ils disent et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai qu'ils ont le pouvoir de rendre malades les gens. Hein. Alors, les débuts de séance où nous nous serrons la main leur évoquent, eux, des condoléances. Et notre silence, quand on les écoute, qu'on est disponible, est perçu comme un silence de mort. Alors, vous voyez comment tout un tas de choses sont transmises, mais de manière où on est impacté et qu'il va falloir faire un énorme travail de reconstruction. Un premier regroupement avec l'ensemble des thérapeutes de l'association, donc dans le post-séance, hein, deuxième halte du dispositif, va permettre une première représentation de ce que donne à ressentir la famille. Mais parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas soumis au bombardement, qui sont légèrement extérieurs. L'intervision, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, il y a le post-séance et puis il y a l'intervision, pardon. Les thérapeutes extérieurs soulignent l'aspect répétitif et peu évolutif des plaintes. Ça, c'est vrai. Ils associent sur des vécus non vécus, c'est-à-dire des expériences d'effondrement non représentées. L'installation d'une bonne symbiose, d'un bon unisson, est problématique pour cette famille, car elle fonctionne, cette famille, dans une oscillation paradoxale entre le désir d'être ensemble et l'impossibilité de rester soi-même qui en résulte. La manipulation de la distance physique, ils nous disent « chacun chez soi maintenant ». C'est vrai que chacun a un chez soi. Hein. Cette manipulation de la distance physique tente de régler le manque de distance psychique et la confusion. Cette famille semble dans le refus de toute dépendance, parce que vécue comme dangereuse et de toute dette. Le fonctionnement de masse apparaît, car chaque mouvement de l'un provoque une réaction de l'autre. Les craintes de son fils, le père dira à son fils, si tu avais quitté la maison plus tôt, j'aurais quitté ta mère. On a un peu l'impression que s'il y en a un qui bouge, c'est toute la chaîne qui suit. Les craintes de démolir l'ensemble tiennent en respect toute tentative d'individuation véritable, de devenir soi-même, et tiennent en respect tout partage d'opinion personnelle, comme s'il fallait absolument penser tous la même chose, l'idéologie recherchée étant le seul contenant familial à même de maintenir un des liens des plus malmenés. Nous allons reconstruire avec eux, progressivement et difficilement, une représentation des données transgénérationnelles avec un peu d'évolution du côté de la famille qui terminera cette thérapie en réorganisant ses modes de présence. C'est-à-dire qu'ils vont venir, dans la dernière année de la thérapie, la mère et la fille ensemble, les deux frères. Et on a fini par penser, soit on a pensé, c'est à nouveau, ils nous attaquent notre cadre, hein, parce qu'on finit par être plus persécutés que les familles, soit ils construisent quelque chose de sous-enveloppe, des sortes de sous-enveloppes comme, contenantes comme la fraternité, la maternité, la parentalité. Une fois le secret de l'inceste paternel imaginé, mais non dit par les enfants, je pense que le fait qu'on l'ait pensé, certainement en avance, sans rien leur en transmettre, a été aussi imaginé par les enfants. Le fait qu'il l'ait imaginé, je pense, a provoqué quelque chose chez le père qui s'est peut-être senti, qui a senti son secret dévoilé. Il va refuser de poursuivre la thérapie en disant que cela fait plus de mal que de bien. Mais les enfants, eux, auront fait un bout de chemin. Enfin, côté maternel, cette fameuse grand-mère, là, on se demande pourquoi on l'invite, j'ai fini. On se demande pourquoi on l'invite. Eh bien, aussi un secret de ce côté-là. Il faut dire qu'ils ont une transmission chargée. Un secret va être construit. Et ça va être à la faveur d'une poupée, là aussi. Un jour, la fille a offert une poupée en porcelaine à sa grand-mère qui est déjà... Alors, eux sont âgés, elle est très, très âgée. Et cette grand-mère qui est infernale, il la déteste, il faut toujours... oui, c'est ça, c'est qu'il faut aimer pourquoi on l'invite. Enfin, ils ont eu un rapport hyper persécutif avec elle. Elle a pleuré. Elle a pleuré et elle a dit, c'est ma première poupée. Alors là, ça a été l'objet d'une reconstruction. Ils ont mis ça en rapport avec le fait, ça avait été disséminé aussi au cours des séances. C'est un vrai travail d'archiviste qu'il faudrait faire. Qu'elle était régulièrement abandonnée lors des fêtes de Noël. C'est-à-dire que ses frères et sœurs à cette grand-mère passaient Noël en famille, elle le passait en pension. Là, ils ont connecté avec le fait qu'elle n'avait jamais eu de poupée. Et là, probablement qu'il y a une filiation trouble aussi. Alors, on voit bien ce qui s'est transmis sans qu'un travail d'historien de transformation, hein, mais de manière brute et fractante, produit chez les descendants. Voilà, un petit mot. L'histoire et la transmission font signe avant que de faire sens. C'est cette importance, c'est d'être alerté par les signes. Un sens qui sera toujours à construire, à reconstruire, à partir des perceptions, sensations, douleurs corporelles, singularités comportementales, à prendre en compte dans le travail thérapeutique sans les dénoncer. L'histoire possède une voie de transmission orale, certes, un récit oral, psychique, mais aussi une voie de transmission perceptives et comportementales. Dans ses effets les moins coûteux, voire les plus constructifs, cette transmission s'illustre dans les rites, les originalités propres à telle ou telle famille, et font souvent l'objet d'un investissement narcissique plutôt vicariant. Voilà, je vous remercie.
Vous m'entendez ? Non, voilà, et là c'est bon. Bien, merci beaucoup Evelyne, pour ces récits cliniques, thérapeutiques et théoriques, si vivants, si denses. Mais quelle clinique ! Quelle souffrance des thérapeutes familiaux !
Mais après, ce qu'on en retire.
Mais voilà, quel plaisir ! Hein, cette transformation, c'est une réelle transformation, parce que on se dit, mais comment peuvent-ils tenir ? Tu évoquais les nausées, les absences des thérapeutes, et ça m'a fait penser à, dans Bad Girls, il y a une pédopsychiatre qui vous a interpellé, Nancy Houston, en disant, mais enfin, tout n'est pas que récit. Hein. Il y a aussi des empreintes archaïques, pré-verbales, pré-narratives, et qui donnent le nausée. La nausée. Hein, moi, j'ai beaucoup pensé, hein, oui. Beaucoup associé à ça. Je pense qu'on ne va pas monopoliser, on va voir un peu qui a envie de réagir, hein, déjà d'ici, de notre place. Et tu l'as bien souligné, ce qui est important aussi, c'est la fabrique des secrets fictionnels. Je trouve ça extraordinaire. Hein, ça fait penser, et ça, les enfants, ça les aide bien. Et l'histoire et les traumatismes qui font signe avant de faire sens. Mais je crois qu'on va... Est-ce que vous avez envie de réagir ? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir là, avant de donner la parole à la salle ? On a 15 minutes, c'est du temps. Oui, bien pour nous.
Bien
oui, attends, on va voir si...
Oui.
Oui.
Non, je suis très très contente d'être là et d'entendre tout cela parce que ce n'est pas mon univers habituel, vous le savez, même si toute jeune j'ai beaucoup fait de lecture dans ce domaine et assisté au séminaire de Lacan et des choses comme ça, et donc ce n'est pas non plus une langue étrangère, mais ce que je trouve puissant et beau dans ces exposés, c'est aussi de savoir que on n'est jamais en dehors soi-même, n'est-ce pas ? On est toujours l'enfant et le parent et l'aïeul et le petit enfant, le thérapeute ou la thérapeute eux-mêmes ne sont pas à l'extérieur et donc ils réagissent aussi avec tout ce qu'ils ont reçu. De traviole et avec leur propre sol qui n'est jamais totalement solide sous les pieds. Donc, c'est important de savoir ça et je pense que vous l'avez très bien fait sentir. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, parce que c'est proche de la littérature, c'est de reconnaître que ce qui va mal, ce qui inflige des souffrances, ce qui est compliqué et souffrant, difficile, c'est aussi ce qui est riche et qui nous apporte des choses. Donc, on ne voudrait pas, n'est-ce pas, d'une espèce humaine où ce type de problème serait éliminé. Je pense toujours qu'on parle beaucoup trop, quand on parle des problèmes de l'espèce humaine, de la sauvagerie, la barbarie, l'animalité, comme soi-disant, alors que à mon sens, ce qui nous menace, c'est aller vers la machine, la robotisation. Et j'ai vu récemment un film sur l'intelligence artificielle et c'est effrayante parce que le but, c'est vraiment... Ils pensent que la mémoire d'ordinateur est une mémoire, alors que la mémoire d'ordinateur n'est pas une mémoire. C'est un enregistrement. Et ça n'élimine rien, ça n'oublie rien. Et ce matinage de mémoire et d'oubli, cette transformation des souvenirs, c'est vraiment cela qui nous rend humains.
Merci.
un mot aussi ?
Oui, je veux bien dire un mot parce que j'étais très contente avec les deux exposés, surtout parce qu'il y avait cette image qui m'est apparue en premier, c'est comment la mise en récit, finalement, c'est un travail. Et c'est un travail qui nécessite du temps, comme on l'a vu dans la thérapie que Evelyne a montré, et comme on l'a vu aussi dans l'exposé de Chantal, comment la construction d'un récit nécessite du temps, et que nous, en tant que thérapeute, on a besoin de ce temps pour faire évoluer quelque chose. Ça me rappelle des discussions que j'ai eues avec des gens qui étaient confrontés à des personnes qui avaient subi des traumas très importants, et dont l'idée immédiate était « mais il faut aller parler de ce trauma-là, il faut que la vérité, en quelque part, ressorte hein. ». Que je trouvais finalement un traitement effractif et traumatique du trauma. Hein. Voilà une des expériences qui m'a beaucoup fait réfléchir. Aussi, on est confronté en tant que thérapeute aux bribes. Hein. C'est toujours des fragments, c'est des bribes. Et comment ce travail, c'est un travail de mise en lien, et bon, on parle du récit, et des mises en lien comme une mise en lien qui finalement est une fiction. Et ça, je pense que c'est important par rapport à la notion des vérités. Est-ce qu'on va trouver la vérité ? Non, on ne trouvera pas la vérité. On trouvera un mythe, une forme qui donne du sens à tous ces faits qui sont un peu fragmentaires. Et dans ce sens-là, bon, je parlerai après de Bad Girl de Nancy Houston, parce que l'aspect fragmentaire me paraît évident. Evelyne aussi, elle parle des bribes et des fictions et de ces allers-retours. Hein. Comment finalement il y a une construction à partir de ces bribes qui sont des signes de toutes sortes, hein, sensoriels, de la parole, ce que j'appellerais ou que Françoise appelle une chaîne associative familiale, multifactorielle. Je pense que ça c'est très très important. Et je trouve que l'idée de la réserve de mémoire affective me paraît un concept très très important, hein, comme pour garder en tête. Hein.
C'est plus polymorphique que
moi j'ai dit. T'as mis polymorphique. Bon.
Non, j'ai pas mis polymorphique, mais je pense que c'est ce qu'il faudrait.
C'est ça, d'accord. Oui. La dernière chose que je voudrais commenter, c'est le temps de post-séance dont Evelyne parle.
Ça, on va voir avec
elle. Oui, parce que. Voilà, voilà, qui sont tous des tiers qui se ramènent, nous essayons de ramener pour pouvoir entendre autre chose. Et ça me rappelle, moi j'ai fait un séminaire pendant très longtemps avec Ophélie Avron, où on a travaillé le problème des emboîtements. Bon, Henri Pierre, il était aussi du séminaire, donc on a travaillé la question des emboîtements, comment un groupe entoure un autre groupe, hein, pour faire résonner quelque chose que le groupe initial, le groupe central, ne peut pas élaborer. Et comment on résonne en groupal autour de ce premier groupe. Donc ça m'a rappelé cette expérience-là. Bon, je m'arrête là.
Merci Aïdé, merci beaucoup. Eh bien, on va passer la parole à la salle. Il faudrait des personnes pour distribuer les micros. Pardon, tu as quelque chose à... Tu voulais dire quelque chose, Chantal, excuse-moi. Ouais.
Témoigner la question du temps. Je viens juste là, en écoutant mes collègues, me rendre compte... Alors, une preuve en est s'il fallait que l'inconscient existe, c'est qu'il y a dans la salle deux personnes qui sont thérapeutes et j'ai aujourd'hui une famille en thérapie familiale qui a été suivie il y a plus d'une dizaine d'années en thérapie de couple et qui, un des enfants a aussi été suivi en thérapie individuelle. Et la question du temps et la question, peut-être pas des emboîtements, mais des enveloppes. C'est-à-dire que là, le trauma est tellement important, est tellement réel, qu'il n'y a pas de récit, il n'y a que des faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité encore de faire ce travail. Je dis encore parce que c'est une famille qui est suivie depuis plus de 15 ans à des niveaux différents. Et il n'y a pas encore, moi-même qui la vois depuis 3 ans, la possibilité de sortir de l'événement pour en faire du récit. Il n'y a pas de métaphorisation possible. Et il y a du symptôme tout le temps, tout le temps, et depuis 15 ans, et des symptômes qui s'aggravent pour arriver à des fonctionnements schizoïdes chez un des adolescents. Voilà, et c'est curieux.
Bien, alors, oui, il y a des personnes pour... voilà, qui peut... Oui, oui, mais moi, je ne peux pas. Il va falloir un intermédiaire. Il vous faut être deux. Merci.
Merci.
Une à droite, une à gauche.
Voilà. Je te donne la parole à Alberto tout de suite après. Françoise Auvertel. Je voudrais, dans la suite de la question du temps, et c'est probablement pas pour rien que la question du temps apparaît si importante, je voudrais relever quelque chose qu'a dit Evelyne qui me semble extrêmement important, c'est la question de la suspension de la proposition de compréhension qu'ont les thérapeutes de ce qui semble apparaître. J'ai tendance à penser, de manière peut-être un peu brutale, mais que souvent la façon dont nous-mêmes nous mettons en récit ou pour nous-mêmes ce qui se passe, qu'on a compris, est d'abord un processus défensif de notre part pour essayer de résister à ce que les familles nous infligent, je dirais. Et donc c'est très important de ressentir à quel point le temps de la famille et le temps des thérapeutes n'est pas le même. Et il faut respecter le temps des familles. Sinon, ça devient effractant. C'est-à-dire qu'on est bien dans quelque chose qui se met en pensée à la limite, je dirais presque, peu importe quoi. Mais il faut déjà commencer à faire naître de la pensée. D'où cette notion de suspension, ça me semble extrêmement contenant et thérapeutique. Le fait même de comprendre... de penser qu'on a compris quelque chose, mais de ne pas être dans le mouvement de tout de suite l'infliger presque à la famille. Voilà.
Oui, ce qui est du côté de la contention et non pas de la contention.
Voilà, c'est voilà. Tout à fait ça. Et juste le mot des enveloppes, c'est des enveloppes gigognes en fait. C'est chaque fois on met une enveloppe plus large qui contient et qui permet que quelque chose se... d'abord est accueilli, c'est la fonction alpha, est accueilli, résiste à l'effraction, et après on commence à penser. Mais j'ai souvent tendance à penser que ce qu'on pense, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est déjà de commencer à penser.
La mise au travail, oui. Voilà. Donne Alberto.
Et merci de ces exposés si riches, qui suscitent tellement... Et j'ai ça un peu une préoccupation dans... Chantage et d'autres qui ont parlé, c'est qu'il y a des familles qui ne peuvent pas mettre en récit. Et je vous dis, ça arrive aussi à des êtres surnaturels. Il y a une histoire juive qui est la suivante, et quelqu'un a l'occasion de parler à Dieu, et il lui demande, mais tu as créé l'homme, il souffrait tellement, tout ce qu'il a à subir, etc. Et est-ce que cela se justifie-t-il? Il m'a dit, et Dieu lui répond, j'ai un problème et je ne peux pas raconter des histoires et j'ai créé l'homme pour qu'il nous raconte des histoires.
Waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, d'autres des questions, des réactions là-bas? Voilà, une...
Je voudrais remercier tous les parcours de cette matinée parce que nous partons de la position clinique face à la vie psychique jusqu'à notre position face à la survie psychique. C'est des choses absolument différentes, avec logique absolument différente, qui nous impose la position clinique absolument différente. C'est-à-dire, toute la dimension quantitative que Béline fait allusion, c'est l'unique façon de retourner toutes les choses qui sont sans inscription, qui sont encore pas subjectivées. Et ainsi, par cette raison, nous pouvons faire une relation entre la douleur et la souffrance. La douleur. Douleur quantitative, première. Expérience de douleur, deuxième. Et souffrance de quelqu'un pour quelqu'un, troisième. Et je pense que toutes les choses que tu travailles, que c'est les chambres que j'ai aussi travaillé, c'est notre façon d'être impliqué somatopsychique. C'est avec notre malaise, notre soma que nous pouvons recevoir ce passage par là que faire tout. Je pense que c'est l'unique possibilité. Hein? Et c'est à partir de nous que nous pouvons soutenir la contenance. Mais pas la même chose dans la vie psychique que nous devons écouter. Notre écoute, c'est ouvert à la mémoire, à les rêves, à beaucoup de choses, que face à la survie psychique, que c'est à notre façon. Deuxième, j'ai fini. Dans la survie, chaque patient peut survivre comme il peut. Mais aussi, quand nous parlons de les ancêtres, je pense que nous ne devons pas oublier que chaque génération a fait une alliance exogamique, quelquefois par l'amour, mais quelquefois il a fait une transformation pour arriver à un type de transmission traumatique, dit traumatique, que c'est les patients et la famille que tu parles. Comment pouvons-nous faire entre nous la différenciation pour toutes ces nuances que nous devons être présents dans la clinique d'aujourd'hui? Par cette raison, je vous remercie beaucoup.
Bien. Une intervention encore, oui. Henri-Pierre.
Oui. Merci pour les deux interventions. Et en vous écoutant, puisque je pense qu'elles sont... Ma réflexion est parallèle, c'est... Je me posais la question d'une sensation qui n'est pas très abordable ou abordée dans notre clinique, mais parce qu'elle est très référencée à une mystique, c'est la question du vide. Parce que la question du vide, par rapport au trauma, notamment, il y a du vide plein et du vide creux. Creux n'étant pas négatif, mais plein étant une question qui devient comme une douleur à la répétition, de ne pas pouvoir s'opposer, de ne pas pouvoir avoir un espace intérieur dans lequel on peut s'opposer, notamment des familles, par rapport à ce que vous... S'opposer. S'étayer, si on peut dire. Se poser. Donc, je me demandais si cette question de la sensation-perception du vide et ses défaillances et ses faillites et n'était pas au cœur même de les problématiques qui sont abordées à la question de la temporalité. Parce que on peut construire une temporalité avec son histoire, avec une perception de sa filiation, à partir du moment où on a une sensation de vide qui ne nous attaque pas. Un vide que l'on peut supporter, qui même est un vide créateur. Mais par contre, quand le vide est trop plein, il devient terrorisant.
Assourdissant.
Et assourdissant, oui. Il y a tous les sensations, perceptions corporelles. C'est la question qui me traversait en vous écoutant. Oui, c'est la question de la liaison. C'est une question que je me posais.
La question de la liaison. Bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il faut que nous respections le temps. On fait une demi-heure de pause. Alors, vous allez avoir deux librairies. Enfin, il y a deux librairies. Vous allez pouvoir trouver les livres psy comme d'habitude, mais aussi les livres de Nancy Houston, ainsi que le divan familial et le livre qui est sorti en hommage à Gérard de Cherf. Je vais vous demander aussi de vous inscrire dans les ateliers pendant la pause. Merci, à tout à l'heure.